Europe Matin Weekend.
Bérénice Bourgueil.
Chaque week-end, il va nous appeler les primates. Autant s'habituer, c'est normal, c'est ce que nous sommes. Marc Giraud, notre bestiologue, naturaliste pour les puristes. Bonjour Marc.
Oui, pas naturiste, on est d'accord. Bonjour.
Bonjour Marc.
On aime bien les quiz, hein, nous.
Ah bon, on adore.
Vanessa.
On est
donc,
tellement bonne. Hein.
Et donc, du coup, oui, super.
C'est ça.
Et donc, du coup, Marc, vous nous concoctez à chaque fois un petit quiz.
Oui, je vais vous faire le coup des petits oiseaux. Alors, ils sont encore là.
ils sortent ou pas?
Elles vont partir en Afrique.
D'accord.
Elles sont encore là. Elles vivent autour de nos maisons.
Oui.
Donc, on va écouter. Il y a deux espèces. On va écouter la première.
Ah, c'est une perruche, ça.
Ah, c'est vrai que ça ressemble à la perruche ondulée. C'est à l'intérieur, c'est dans une grange.
Hein?
Ah, dans une grange. Donc, les nids sont dans les granges?
Elles nichent dans les granges, celles-ci.
Ah, si. Les hirondelles.
Les hirondelles rustiques.
Ah, la rustique.
La rustique.
Ah bah, allez préciser.
Oui, hirondo rustique. Oui, parce qu'en fait, c'est la plus typique avec une longue queue effilée.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, le mâle, on le reconnaît parce qu'il a les plus longues rectrices. Voilà, je vais bien le dire. Donc ça niche dans les granges, hein,
oui.
Dans les cabanes, à l'intérieur toujours. Et là, il y a une deuxième espèce que je vais vous faire écouter.
Oh, mignonnette.
Voilà, strident. Hein,
ouais, c'est plus râpeux.
Est-ce que c'est celle qu'on voit et on se dit si les hirondelles sont basses, il va pleuvoir?
Alors c'est toutes.
Ah d'accord.
Toutes, elles volent bas parce qu'il y a des basses pressions, les insectes sont en bas, elles chassent près du sol. Mm-hmm. Et ça c'est l'hirondelle de fenêtre, on l'appelle fenêtre parce qu'elle niche souvent au-dessus des fenêtres, sous les toits.
Et donc c'est celles qui se prennent aussi les fenêtres en pleine figure.
Oui, alors il y a plein d'oiseaux,
c'est vous ça.
Oui, ça peut être moi aussi.
Ça dépend à quelle heure. Donc ces petites hirondelles, elles font des nids en boue. Donc c'est tout un travail pour elle, parce qu'il faut de 700 à 1500 boulettes pour faire un nid quand même.
Mm-hmm.
Donc ça fait à peu près 300 km de navette pour faire un seul nid. Donc c'est un travail énorme et on s'est aperçu que les hirondelles disparaissaient, entre autres parce que dans les villes c'était trop propre et il n'y avait plus de boue. Donc les naturalistes comme moi, ils font des petits bacs de boue pour les hirondelles.
D'accord, mais dites pas que dans les villes c'est trop propre, arrêtez.
Il n'y a pas assez de boue pour les hirondelles.
Et c'est vrai qu'elles reviennent d'une année sur l'autre au même endroit ou pas?
Exactement au même endroit chez nous et exactement au même endroit en Afrique. Donc elles ont un GPS très précis.
Mais elles gardent leur nid chaque année ou pas?
Elles gardent leur nid, oui, elles le refont, elles le rebâtissent et puis les nouvelles, elles font des nouveaux nids.
Donc on ne touche pas les nids en fait?
On ne touche pas les nids, c'est une espèce protégée, 15 000 euros d'amende, la destruction d'un nid d'hirondelle, hein, ça rigole pas.
Oula, ouais. Donc
c'est un insecticide gratuit, non polluant, et très utile et ça porte bonheur.
Alors, les villes trop propres, pas assez de boue. Si on sort un petit peu, on voit des petites rivières, des ruisseaux, l'eau douce. Et dans l'eau douce, mais là, je pense que vous me faites une blague. Vous me dites qu'il y a des phoques en eau douce.
Ah oui, il y a des phoques en eau douce. Alors, ça fait toujours la une des journaux locaux, parce qu'on croit que c'est des phoques égarés ou malades.
Ouais.
En fait, ce sont des phoques communs, hein, des veaux marins, on les appelle, mais ils ne sont pas que marins. Ils remontent les fleuves, notamment pour chasser et pêcher des mulets. Mais ça, c'est
des mulets, des poissons, pas des ânes, hein, on est d'accord.
Non, mais tant qu'on y est, on a aussi les ânes dans l'eau.
Ah non, mais tout fou en ce moment.
Mais on en trouve dans la Garonne, dans la Loire, à plus de 500 km de la mer quand même. Donc, ils sont vraiment chez eux en eau douce, mais on a perdu l'habitude parce qu'ils ont été beaucoup chassés. Ils ont complètement disparu. La chasse a été interdite en 1972 et le premier a été vu dans la Garonne au niveau d'Agen en 1975. Donc très vite, ils sont revenus, mais nous, on a perdu l'habitude de les voir. Et on a fait des recherches archéologiques et il y a des ossements de phoques du paléolithique supérieur, c'est-à-dire moins 30 000 ans, moins 12 000 ans, très loin des côtes, dans le Massif central et autres. On en voit en Bourgogne maintenant. Donc si vous voyez un phoque,
oui, qu'est-ce qu'il faut faire?
Normal.
C'est normal.
Il faut le laisser
on
tranquille.
On ne touche pas, on laisse tranquille,
oui,
on l'observe.
On l'observe.
C'est des phoques gris.
Alors le phoque gris, c'est l'autre espèce qui est beaucoup plus marine, là, qui se reproduit aussi en France.
Qu'on
c'est des
pas
espèces en France.
D'accord. Okay.
Et exceptionnellement, on a aussi vu un morse là, en France le 26 mai, on l'a vu, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hein, ensuite, on l'a vu au Sable-d'Olonne et ensuite le 28 mai à La Rochelle. Et ça, un morse, là, en revanche, c'est tout à fait exceptionnel.
Il s'était perdu.
C'est un jeune mâle qui était en forme mais très épuisé. On l'avait repéré déjà au Pays de Galles et autres. Et c'est exceptionnel, ça. Mais le phoque d'eau douce, c'est tout à fait normal.
À observer, si jamais vous vous baladez là, aujourd'hui, pourquoi pas. Alors, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir, mais ce qu'on aime aussi par-dessus tout, c'est de parler de la sexualité des animaux. Parce qu'on peut apprendre des choses qu'on peut reproduire par la suite. Non ?
Oui, beaucoup.
C'est un âge, on peut avoir une imagination.
Ah oui, non, mais ils font des trucs, il y a des positions, là, le Kamasutra des animaux, on aura le temps d'en parler. Hein.
Ben oui.
Mais j'aurais voulu vous parler d'un truc dont on ne parle jamais, c'est du plaisir chez les animaux. Parce qu'ils connaissent le plaisir. On est tellement orgueilleux qu'on pense toujours qu'on est seul à faire des tas de trucs, mais les animaux aussi. Sinon, pourquoi ils s'accoupleraient?
Pour la reproduction.
Mais ils ne le savent pas. Quelle est leur motivation? Et même les humains, pendant longtemps, ils n'ont pas fait le rapport, entre le rapport et la naissance.
Ils n'ont pas de conscience là-dessus.
On n'a pas forcément la connaissance que l'un entraîne l'autre. Et chez les animaux, donc, il faut bien un stimulus.
Ouais.
Donc il faut bien qu'il y ait au moins le soulagement d'une tension, parce que s'accoupler, c'est quand même assez intime, il faut être très proche. Là, je parle des fécondations internes chez les mammifères. Donc chez des animaux qui ont tendance à être agressifs et autres, il faut des gestes d'apaisement, une paranuptiale, etc. Donc,
une séduction.
Et il faut un plaisir. Et le plaisir, il y a un organe au monde, un seul, qui est uniquement dédié au plaisir, c'est le clitoris. Et toutes les mammifères en ont, de la souris à la baleine, et ça aide à l'accouplement.
Bon, alors, le clitoris d'une souris, d'une baleine, mais j'ai des images.
Oui, ça favorise l'accouplement. Le mâle aussi, il a son soulagement quand il libère sa semence.
Oui.
Et donc, il y a un plaisir. D'ailleurs, il y a plein d'animaux qui se masturbent. Ceux qui ont des chiens et des coussins, ils voient très bien quand l'un s'amuse.
Surtout les coussins.
Ben, ou des genoux, hein, ou des mollets. Hein.
Oui, voilà. Ça, donc,
c'est
on
l'expérience
voit très bien.
Qui parle.
Bon, si vous allez en zoo, vous voyez ce que font les singes. En fait.
Mais bon. C'est du plaisir.
Mais
donc, il
n'y
a pas de mal à se faire
et
plaisir.
Et chez les chauves-souris, on a découvert en même temps des comportements de fellation et de cunnilingus. Donc ça sert pas spécialement à la reproduction, hein. Donc il y a quand même, ça prolonge l'accouplement, et on pense aussi, c'est les chercheurs, donc ça a à faire dans leur bol labo.
Écoute, moi je vais devenir chercheuse.
Et il y a même des chercheurs en équipe en Israël qui a cherché la jouissance de la mouche. Donc ils se sont aperçus que la mouche mâle, ils ne fument pas. Non, ils sont très sérieux, en plus ils vous disent ça avec des mots savants.
Et donc la mouche mâle, quoi?
Jouit au moment de l'éjaculation, ce qu'on aurait pu prévoir.
Oui.
Et le problème, c'est qu'ils ont étudié que les mâles. On aimerait bien savoir ce que font les mouches femelles.
Eh bien, ce sera peut-être pour la semaine prochaine.
Voilà. La science est mijotée.
Bon, et c'est avec nous, Marc, on va partir où, Vanessa?
On part dans le Tarn, dans le pays de Cocagne, parce que le pastel vient d'être inscrit au patrimoine, les amis. Vous allez rencontrer quelqu'un d'assez fantastique.
Allez, à tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Bérénice Bourgueil.
Et Vanessa. Alors Vanessa, vous nous disiez tout à l'heure, on va partir dans le Tarn. Vous nous emmenez en Occitanie pour découvrir le pays de Cocagne.
Exactement. On connaît tous l'expression « un pays de Cocagne ». Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est le paradis terrestre?
Oui.
Oui, voilà. Avec une nature abondante. Alors finalement, il n'est pas si imaginaire que ça, parce qu'il existe. Il existe au sud d'Albi, entre Albi, Carcassonne et Toulouse, dans un triangle d'or. Je vais vous dire plutôt au bleu, vous allez comprendre pourquoi. Le terme Cocagne, est-ce que vous avez une idée de l'origine de ce mot ou pas?
Non, pas encore.
Alors, cocagne, c'est les petits pains de pastel. Et c'est grâce en fait à cette petite coque que le territoire s'est enrichi entre le Moyen-Âge et le 17e, à tel point qu'on disait que les seigneurs étaient beaucoup plus riches que le roi. D'ailleurs, on en a déjà un aperçu quand on se promène à Toulouse. Il y a de très très beaux hôtels particuliers. Et donc, cette boule, c'est la boule donc, de pastel, c'est-à-dire la cocagne.
D'accord, le pastel, c'est une plante.
Ah, c'est une plante.
C'est ça. Et puis la boule, elle est faite de quoi en fait?
Alors, elle est faite des feuilles, donc, qui sont vertes au départ, mais qui vont donner évidemment du bleu en teinture. Pour vous donner une idée, il faut une tonne de feuilles pour faire 2 kilos de bleu.
C'est beaucoup. Hein,
bon. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui
de cette teinture au pastel?
Justement,
j'allais vous poser la question.
Parce que la teinture au pastel vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel français. Alors, pour être plus précis, c'est même le savoir-faire. Pour ça, on va aller à Lautrec. Lautrec, c'est pas que l'Aïrose, parce que j'imagine que vous connaissiez l'Aïrose, mais c'est aussi le pastel. Lautrec, c'est le village de Toulouse-Lautrec, hein, le peintre. C'était vraiment le fief de sa famille depuis le 10e siècle. Et ce village, il ne faut pas le manquer. Alors c'est vrai que c'est un très très beau village. Il est classé plus beau village de France, en particulier grâce à ses maisons colombages, avec ses briques roses, avec sa grande place. Mais surtout parce que ce n'est pas un village musée. Il a une âme, ce village. Et il y a une personne qui contribue à cette âme. C'est une teinturière d'exception. Elle s'appelle Françoise Carayol. Et on écoute déjà de quoi elle a besoin pour passer du vert au bleu indigo.
Pour mon travail, j'ai besoin donc d'une plante, d'une cuve, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de henné, j'ai besoin de sirop de date, j'ai besoin de tissu. Chaque pièce est manipulée une trentaine de fois et il se passe une semaine avant que le produit fini arrive en boutique.
Bon, ça, c'est une manière de synthétiser les choses parce que le processus est extrêmement compliqué, la fermentation aussi. C'est complexe et subtil, c'est très artistique aussi. Et d'ailleurs, Françoise me disait qu'elle considère qu'elle maîtrise son savoir-faire, mais seulement au bout de 7 ans. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de professionnels de la mode ou de la décoration qui viennent la voir justement pour faire des stages chez elle, à la ferme au village.
D'accord, donc du coup, nous aussi, on pourrait apprendre.
Bah, complètement.
Mais il faut 7 ans.
Alors oui, il faut 7 ans, donc il faut être prêt. Vous pouvez faire votre stage évidemment, donc vous apprenez à atteindre, mais bon, le talent ça ne s'apprend pas non plus, puis ça se travaille. Sinon il y a des formats ateliers de découverte pour découvrir par exemple l'histoire du pastel, le métier de teinturier avec une démonstration, alors ça c'est aux environs de 8 euros. Mais sinon vous pouvez venir teindre une ou quatre pièces par exemple. Donc vous, votre pyjama grenouillère que vous aimez tant, ou votre salopette, vous pourriez venir
vous balancer
avec...
comme ça.
Mais
vous
oui,
parlez
voilà,
de mon pyjama pilou pilou, ben merci.
Voilà.
Mais Vanessa, moi, quand on me dit pastel, je pense à ces espèces de crayons là.
Oui, mais alors on se sert de l'huile en fait.
Ah,
ouais,
alors, voilà.
Parce que évidemment, on peut sortir de l'huile de pastel une huile qui a des vertus dermatologiques, antioxydantes, cicatrisantes. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller faire un tour du côté du château des plantes. Lui, il s'appelle Gilles Berthoumieux, ce spécialiste des huiles essentielles. Il cultive le pastel sur 4 hectares. Pareil, fourmille d'idées. Donc passez, parce qu'en plus, c'est sur la route du pastel, une route qui fait 200 kilomètres. Vous allez de château en château et il y a plein de petites choses à voir.
Non, mais c'est bien beau ça, Vanessa, mais à un moment donné, il faut que je me pose et que je dorme.
Bon,
moi,
alors,
bien faire...
je vous ai trouvé mais un super couple d'hôtes.
D'accord.
Elle est suédoise. Elle s'appelle Sandra, lui Sylvain. Et c'est la chambre d'hôte de Cadalen. C'est une maison de caractère qui date du 14e siècle avec un double pigeonnier. Et alors, si je vous parle de pigeons, c'est extrêmement important dans ce pays de Cocagne. Pourquoi? Parce qu'on les trouve souvent en plein milieu des champs. Parce que pour cultiver le pastel, eh bien, on fumait les terres à la colombine. Vous savez ce que c'est la colombine?
Bah, c'est la copine d'Arlequin.
On y est presque. En tout cas, l'Arlequin, il s'appelle le pigeon. C'est la fiente, en fait, de pigeons. Alors évidemment, il n'y a pas qu'un pigeonnier, mais il y a un sublime parc chez eux. Il y a même une piscine en ce moment, si on veut profiter des beaux jours. Voilà.
Bah voilà, vous savez tout pour voir la vie en bleu. C'est très corporate. Hein, de
ouais, c'est corporate.
Bah ouais. Le rose n'est pas loin. Il y a de l'ail aussi à Loutrec. On l'a compris. Bon, bah, merci beaucoup, Vanessa.
Et bah, c'est rien.
Eh ben, je vous en prie. Bonjour.